Je suis content que vous soyez là aussi. Ce que je vais faire, par contre, c'est quand même m'adresser à vous, non pas en tant que chercheur. Ça fait quand même 2 ans que je ne suis plus à l'université, mais en tant que blogueur actif. J'ai ouvert le blog qui est là il y a 3 ans, mais l'an dernier, j'ai délibérément choisi de me prêter à l'expérience qui consisterait à mettre pas mal tout ce que j'allais écrire là-dedans. C'est d'où la raison des 111 billets de l'intensivité de cette écriture-là pour ce qu'a été l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi. Bon, j'ai eu des billets, j'ai eu une série peut-être de 11 ou 12 billets sur le fait de bloguer, ce qui explique ma présence ici, j'imagine, en partie. Et ce que je présente là, ce n'est pas une synthèse de ce que j'ai déjà fait, ça m'intéressait plus ou moins, mais la poursuite de ça. Donc, j'avais commencé à réfléchir déjà. Ce que je dirais d'abord qui m'intéresse avec le blog, que j'observe avec le blog, c'est que c'est un lieu, entre autres, où on peut développer simultanément la création et la réflexion sur la création. Même si souvent on dit que c'est peut-être en train de mourir, que c'est remplacé par autre chose, je ne sais pas quoi, moi aujourd'hui je joue ça chill, je suis optimiste, je dis que... C'est intéressant, comme praticien de l'écriture, de participer, de s'investir dans un phénomène, c'est-à-dire d'essayer d'inventer des choses sur un phénomène qui est en train de se faire, c'est-à-dire d'être à la fois acteur et observateur. OK? Et de fait, en étant acteur et observateur, peut-être qu'on contribue à le définir, ce phénomène-là, qui n'est pas encore fixé, hein, qui n'est pas encore fixé comme peut l'être. Je ne sais pas. OK? C'est encore en devenir. Maintenant, je réfléchissais à ça et je me demandais, ben, qu'est-ce que je peux essayer d'exprimer sur qu'est-ce que c'est que d'écrire intensément dans un blog, comme je l'ai fait, mais comme d'autres le font aussi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je cherchais un petit peu des figures littéraires, hein, qui des destins d'œuvres ou d'auteurs qui me paraissaient comparables, mais qui étaient arrivés avant la communication électronique et tout ça, donc qui étaient arrivés au milieu du 20e siècle et avant. OK? J'en ai désigné trois que je vais développer. D'abord... Éric Auerbach, qui est l'auteur de Mimesis. Okay, je pense que c'est un ouvrage qu'une majorité de gens connaissent ici parce que c'est un classique, de la critique littéraire. Le deuxième, c'est le journal de Gombrowicz. Je ne sais pas tout à fait comment prononcer ça. Et le troisième, en fait, c'est un personnage fictif. C'est le professeur Oblivion dans Vidéodrome. Le film de David Cronenberg qui a été réalisé en 1983 et qui, selon moi, anticipe de façon assez extraordinaire la façon dont, je dirais, la toile, le virtuel, modifie la subjectivité. Et je vais peut-être essayer de trouver comme une illustration parce que je travaillais sur ce billet-là. Là, vous voyez ici, ça c'est mon chantier. Vous voyez, il y a beaucoup de brouillon. Et il y en a un qui est planifié ici, de trois figures anticipées du blog et de sa pratique. C'était le titre initial de ma conférence, mais que, et là, il y a une version antérieure du texte que je suis en train d'improviser devant vous, qui est là. Et en bas, j'avais mis des illustrations. Donc ça, c'est une scène. Je ne suis pas encore assez technologiquement développé pour coller des extraits de films, et le professeur Oblivion, c'est lui, là. OK? Je vais noter qu'il est toujours en présence, on est toujours en sa présence, par le biais d'une télévision, en fait. C'est ça qui est important à retenir. Donc, première chose, Eric Auerbach et Mimesis, qui est, c'est un livre pour moi qui est absolument extraordinaire. C'est un livre de critique littéraire que je relis, que je consulte souvent, contrairement à la plupart. Pour résumer ça, hein, c'est un livre où il écrit une espèce d'histoire de la littérature occidentale qui commence avec Homère et la Bible et qui finit avec Joyce, Proust et tout ça. Et il cherche en quelque sorte à définir, à tracer un peu l'évolution de, l'évolution de ce qu'il appelle la représentation de la réalité, mais c'est-à-dire au sens large, là, c'est pas le réalisme psychologique nécessairement, c'est toujours essayer de voir dans les textes quelles dimensions de la société sont là, quel rapport au sacré est exprimé là, comment est-ce que les gens finalement sentaient les choses et les racontaient par le biais d'inventions poétiques. Hein? Donc, c'est une espèce d'anthologie des chefs-d'œuvre de la littérature occidentale qui couvre 3 millénaires. Il y a 20 chapitres là-dedans. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre-là, entre autres, c'est qu'il n'y a presque pas de référence. Hein? Finalement, ça fonctionne un peu à la façon d'une anthologie de pages commentées. Tous les chapitres reproduisent un passage du texte dont il va être question, et après ça, Auerbach va les commenter longuement et va reconstituer comme ça, hein, les modalités de la représentation de la réalité. Bon, qu'est-ce que c'est, par exemple, le laconisme psychologique dans la Bible, contrairement à comment je peux dire, l'exhaustion, hein, l'épuisement, les listes chez Homère et tout ça. Bon, bref, je ne veux pas trop entrer là-dedans. Auerbach, définitivement, scrute des passages littéraires à la loupe, et ses chapitres sont construits comme ça, c'est-à-dire qu'il reconstruit tout un monde et une époque et une sensibilité à partir de ces passages-là, qui sont très brefs. C'est assez ironique, en fait, c'est fou, c'est assez ironique en quelque sorte que ce soit un classique des études littéraires maintenant, parce que finalement c'est un livre qui correspond absolument pas aux critères de la recherche scientifique, du tout, du tout. Auerbach était un philologue, je pense, il était spécialiste en philologie romane, mais quand il a commencé à écrire le livre, donc il a commencé à l'écrire en 1942, il était exilé à Istanbul, il fuyait la guerre, et il s'explique dans la postface de son livre qu'il ne disposait pas de sources vraiment fiables. Hein. Donc il dit « J'avais affaire à des textes couvrant 3 millénaires, ce qui m'a souvent obligé à quitter mon domaine propre. » Hein? Et on ne trouve pas à Istanbul de bibliothèque bien pourvue pour les études européennes. Les communications internationales étaient entravées, de sorte que j'ai dû me passer de presque toutes les revues, de la plupart des recherches récentes, bon, etc. Et là, il s'excuse, il est possible que j'ai avancé des choses bon, qui sont contraires aux recherches les plus récentes, mais j'espère que mon livre est bon quand même, là, je paraphrase ça. Hein? Et il ajoute, moi, ce que j'aime beaucoup, il est bien possible que le livre doive son existence précisément à ce défaut d'une grande bibliothèque spécialisée. Hein. Si j'avais été en mesure de m'informer de tout ce qui a été publié sur tant de sujets, je n'aurais peut-être jamais pu commencer à l'écrire. Bon. Il a raison, hein. Je pense qu'il a raison. Il aurait sans doute été tenté d'écrire une série de 20 livres pour chacun des sujets qu'il aborde dans son chapitre, parce que... Il était donc privé de ses sources, de ses ressources de chercheur, et ça le met dans une position que je trouve très intéressante par rapport à ce que je fais, à ce que d'autres font, bon, parce que des études exhaustives, il y en a dans les blogs énormément, c'est que... Il est obligé, c'est un homme cultivé, très sensible et tout ça, et en quelque part, moi j'ai l'impression qu'il n'en avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ses sources, c'était quelqu'un qui avait assimilé certaines connaissances, qui avait une relation d'intimité avec les œuvres qu'il abordait. Ce qui fait en sorte que dans une situation extraordinairement adverse, hein, qui est celle d'être justement privé de l'université, hein, dont il est un produit, eh bien, il entreprend finalement de réinventer en quelque sorte son rapport à la littérature occidentale. Il réinvente un petit peu ces textes-là à partir de ce qu'il a assimilé. Donc, en même temps, Mimesis, à mon sens, c'est bien sûr, c'est une étude bon, qui a une valeur, je pense, historique, poétique et tout ça. C'est une étude, mais en même temps, moi, je le prends aussi comme un témoignage. Hein. C'est un témoignage sur la relation que Auerbach a avec les œuvres qu'il entretient. C'est un rapport qui est très amoureux. D'ailleurs, il n'hésite pas, évidemment, à s'impliquer lui-même comme sujet en disant, ben, par exemple, à dire que la littérature de Proust, la littérature de Joyce, moderne et tout ça, ça le déroute un peu. T'sais, il a l'impression que ça s'en va peut-être un petit peu à sa perte. Il craint le modernisme et tout ça, mais de toute façon, c'est pas grave parce que je pense qu'il en dit beaucoup plus dans son livre qu'il ne le croit lui-même comme sujet qu'il écrit. Alors, à mon sens, bon, moi, j'écris toutes sortes de choses dans le blog, mais il y a parfois des pages, en fait, mon système de libellé est absolument bordélique, mais il y a un des projets, de temps à autre, moi, je classe ça sous ce que j'appelle l'anthologie littéraire profane. Donc, de temps en temps, il m'arrive d'analyser moi-même des pages, par exemple, de Sade. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez drôle récemment, c'est que depuis 3 semaines, il y a ce billet-là ici, « La fabuleuse invention d'Henri Bailey, introduction à un passage anthologique de Stendhal », qui est extraordinairement fréquenté depuis 3 semaines par des lecteurs français, suisses, belges et tout ça. Je pense qu'il y a des lycéens qui sont obligés de faire une dissertation sur l'invention d'Henri Bailey et qu'est-ce que c'est, tout ça, et puis qui viennent lire cette page-là. Alors, je l'ai écrite le 4 février 2010. Hein? Et tout à coup, quand on dit que le blog, des fois, hein, ça enterre, le dernier billet enterre toujours ceux qui viennent avant, c'est pas tout à fait vrai. Parce que de temps à autre, comme ça, il y a des émergences qu'on peut pas s'expliquer, mais tout à coup, à un moment donné, hein, dans la durée, il y a comme des fois des circuits qui se retrouvent autour de ça, et puis paf, ils trouvent quelque chose. Alors... Pour moi, enfin, pourquoi est-ce que je parle de Mimesis? OK, c'est que, entre autres, je trouve que pour n'importe quel chef-d'œuvre, enfin, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, pour moi, ce n'est pas un objet figé, ce n'est pas une chose figée qui représente l'excellence qu'on ne pourra jamais dépasser. Un chef-d'œuvre, pour moi, ça représente une méthode de travail. C'est quelque chose qui transmet une méthode de travail. Quand Godard fait des collages avec des vieilles VHS puis qu'il fait des histoires du cinéma, pour moi, ce qu'il est en train de me dire, c'est que je peux faire la même chose en quelque sorte. Je n'aurais pas le droit de la diffuser, mais il s'emploie avec des instruments très rudimentaires hein, pour faire quelque chose qui est absolument hallucinant. Puis tout ce que ça lui a pris, c'est une bibliothèque de vidéocassettes puis une pensée, bien sûr, qui se rappelait, qui créait des liens entre les œuvres qu'il avait vues et tout ça. Eric Auerbach fait la même chose, c'est-à-dire que on arrive à un moment donné à avoir assimilé, à avoir une expérience avec la littérature. Bon, c'est un blog littéraire, moi je suis littéraire, c'est avec la littérature, c'est ça qui me branche. Bien, à un moment donné, je pense qu'on peut très bien écrire sur ce qu'on aime, écrire là-dessus de façon crédible, en conservant une dimension de témoignage qui fait en sorte que, bien, moi, quand j'écris dans mon blog, contrairement à quand j'écris pour une revue ou tout ça, je ne m'embarrasse pas tellement d'aller vérifier dans mes sources si c'est crédible ou si c'est ce que je dis et tout ça. Tu sais, je peux emprunter le style de la réalité, je peux dire merde, je peux dire fuck, et puis je peux aussi quand même dire des choses sensibles sur Racine, bon, enfin, sur ce qui... whatever suits my fancy au moment où j'écris. Alors, ça, c'est un affranchissement. Et le blog, justement, se situant en dehors de l'université, bon, j'ai ouvert le blog quand j'écrivais mon mémoire et j'avais des blocages d'écriture extraordinaires, mais enfin, il se passe quelque chose dans le blog qui fait que j'écris un peu à toute vitesse. Et le fait de se trouver comme ça dans une zone d'exil, hein, peut favoriser cette prise de parole. Maintenant... Alors, c'est une définition, c'est un aspect qu'on peut ajouter au fait, hein, quand on dit écrire en dehors des instances de l'institution hein, ou en dehors des instances de l'édition et tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les éditeurs avec leur comité de lecture et tout ça. C'est aussi la contrainte de la bibliothèque. Hein. C'est aussi la contrainte de devoir traîner sa bibliothèque avec soi à chaque fois qu'on se prononce sur quelque chose. Là, on peut le faire en se passant de la bibliothèque. OK. Et, comme je dis, impliquer la dimension du témoignage, marier le témoignage avec l'analyse. Donc, deuxième chose, je parlais de Gombrowicz, c'est un peu la même chose. Je lis en ce moment, je relis Gravity's Rainbow de Pynchon et j'y ai trouvé un peu une métaphore, c'est-à-dire c'est l'état de prétérition. Gombrowicz a commencé un journal très long en 1953, il était en exil. en Argentine, il était pris dans un emploi de commis banquier. Je pense qu'il était justement dans il était contraint de travailler. Bon, il ne pouvait pas vraiment créer de romans, ou en tout cas, c'était difficile pour lui. Et donc, il a décidé un peu de s'occuper de son œuvre, de s'occuper de, comment je peux dire, de sortir un peu de son isolement en créant un journal. Je crois qu'il y a... peut-être un développement que je devrais couper par rapport à la prétérition. Vous savez, la prétérition, c'est comme en parler de quelque chose en prétendant que ça n'existe pas. Et en parlant, évidemment, ça existe d'une certaine manière. Et peut-être qu'on se met un peu dans un état de prétérite. Hein? Dans la doctrine puritaine, par exemple, être un prétérite, c'est ne pas avoir hérité de la grâce divine à sa naissance. Hein? Donc, notre âme est dans une espèce de no man's land. Comme ça, on n'est pas les élus, donc on n'est pas édité dans les livres. Je ne sais pas, on ne travaille pas à l'université. En tout cas, pour ce moment, moi, je ne travaille pas à l'université. On est un peu dans un état de prétérition. On peut être, par exemple, un héréro. On peut être un Québécois français qui est en train de perdre sa langue. Enfin, on est... Vous savez, on est dans un état d'assimilation, on est menacé par une sorte d'assimilation, on est dans un non-lieu, et à partir de ce lieu-là, on parle. Et c'est un peu là où je place Gombrowicz, entre autres. Et ce qui est drôle, c'est que Gombrowicz, donc, va parler de toutes sortes de choses dans son journal, en prenant des pauses assez vaniteuses, donc son « moi » est très, très fort. Et il est publié dans une revue culturelle polonaise qui circule seulement clandestinement en Pologne. Et il fait toutes sortes de choses que je trouve assez fascinantes, hein, parce que, bon, il avait une culture philosophique très, très vaste. Et en écrivant son journal comme ça, en reproduisant un rythme journalier dans son écriture, il réinstalle la place du « je », hein, du « je me moi », hein, dans l'exercice de la philosophie. Il installe un rythme aussi de feuilleton, hein, de feuilleton carrément, dans ce qui est quand même un corpus assez consistant d'essais aussi. Donc, il y a quelque chose qui devient comme assez concret, quoi. C'est la philosophie qui sort du plancher des vaches, hein, qui sort aussi de l'expérience personnelle et des poses comme ça de comédien vaniteux qui est assez rafraîchissant. Je ne connais pas trop la philosophie, mais s'il y a quelque chose qui me rebute souvent dans les ouvrages philosophiques, c'est au contraire, c'est la neutralité de ton, cette espèce de sujet désincarné qui parle en sentence universelle, alors qu'en fait, c'est un système paranoïaque de réflexion qui est tout à fait subjectif, là. Hein? Alors, lui, il donne, donc je ne prétends pas que le journal, ce soit un grand bordel, hein, je ne crois pas que le journal ait une forme qui ne soit pas préméditée, mais je pense qu'il y a un élément qui est prémédité là-dedans, c'est justement c'est de montrer la pensée dans sa construction, c'est-à-dire que justement, comme disait Bertrand, on montre le processus, hein, le processus participe de la forme. Donc, très belle chose, ça aussi, et je ne sais pas, moi, sincèrement, si le journal de Gombrowicz circulait beaucoup, enfin, si ça passait en très grand tirage, je ne crois pas qu'en Pologne, ça ait circulé beaucoup, c'était censuré et tout, c'était clandestin, mais ça ne l'empêche pas, justement, de bomber du torse, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les postures qu'il prend, Gombrowicz, c'est vrai qu'il s'en compte avec tout le monde. Il s'amuse à afficher des opinions péremptoires. Je veux dire, c'est quand même, là, dans le journal, là, Gombrowicz, c'est quand même, là, je vais citer mon texte, OK? Gombrowicz, c'est en outre, hein, une voix qui dit de façon frondeuse et argumentée, hein, j'insiste quand même sur le fait argumenté, OK? Que l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, à certains égards, sus, hein? Que l'intelligentsia littéraire, sus, que la politique culturelle de son pays et des autres, sus, que la critique littéraire, sus également, bref, hein, le discours de Gombrowicz et l'illustration en acte d'une manière de convertir en force, hein, la prétérition et l'exil, hein, qui lui est échu. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire que le blog, c'est le samizdat de l'ère numérique? Hein? Ben, je dirais, hein, procédons page par page, parce qu'on croule évidemment sous les banalités. Mais il y a un élément de samizdat là-dedans. Il y a un élément... deux, trois minutes... qui fait que il n'est pas connu, on ne sait pas si on est lu dans les blogs et tout ça, mais en fait, je pense qu'on partage un peu la même volonté, en quelque part, hein, c'est de remettre sa confiance à la force de frappe du discours lui-même. C'est-à-dire que même si lui, il affirme son ego constamment, au bout du compte, ce qu'il veut, c'est que ça soit le texte, ça soit les arguments qui convainquent. et je le cite encore, hein, « Seras-tu plus avancé, bourrique, hein, de savoir si je suis franc ou menteur? Hein? Ça n'a rien à voir avec la justesse des pensées que j'énonce. Je peux, tout en mentant, proférer une vérité qui monte jusqu'au ciel et lâcher par franchise la pire sottise. Alors, apprends à apprécier une pensée indépendamment de celui qui la prononce et de sa forme. » Maintenant, par contrainte de temps, je vais couper la partie sur le professeur Oblivion de David Cronenberg, mais ça va un petit peu dans ce prolongement-là. Ce que je voulais faire, c'était un peu de comparer. Pour moi, Oblivion, alors dans sa télévision que vous avez vue tout à l'heure, il dit à un moment donné, c'est une espèce de prophète de l'ère des médias, hein, en 1989, et il dit hein, « L'écran de télévision est devenu la rétine de l'œil de l'esprit. C'est ce pourquoi je refuse d'apparaître à la télévision, sauf à la télévision. Bien sûr, Oblivion n'était pas le nom avec lequel je suis né, c'est mon nom de télévision. Bientôt, chacun d'entre nous auront des noms special names, hein, auront des noms spécifiques, des noms conçus pour faire résonner l'écran cathodique. » Bon. 1983, Cronenberg, idée de génie et tout, parce que maintenant, bien sûr, tout le monde écrit sous pseudonyme, tout le monde joue le jeu de l'identité d'emprunt justement pour faire résonner l'écran cathodique, enfin pour faire entendre un discours que pour des raisons X, Y, ils veulent pas qu'on les attribue à ad hominem, à une personne. Mais alors, c'est la nouveauté, en fait, par rapport à ce que faisait Auerbach ou Gombrowicz ou de ce qu'on fait dans les blogs. La nouveauté là-dedans, c'est évidemment, c'est l'explosion, hein, c'est le recours en série à l'avatar identitaire, hein, qui fait en sorte, je pense, dans l'exemple de certains blogs, je pense que très souvent, dans les blogs, on adopte un pseudonyme pendant 1 ou 2 ans et éventuellement, on révèle son identité. Il y a des blogs qui ferment à un moment donné, après une longue expérience, des gens qui écrivent sous des noms d'emprunt, des choses parfois scandaleuses ou des fois qui ne le sont pas nécessairement, mais qui, je pense, emploient le blog pour voir où leur propre écriture les mène. Écrire sous un faux nom, c'est peut-être ouvrir une dimension de son écriture qu'on ne connaît même pas soi-même, et c'est en même temps apprendre à l'assumer. Et à un moment donné, voilà, on se la réapproprie, on peut dire maintenant, c'est moi, quoi. C'est moi qui a fait ça, et ça peut peut-être aller ailleurs, ça peut peut-être continuer. En tout cas, je ne sais pas. Je sais que là, ben, comme ça fait 21 minutes que je parle... Ce que je me disais, OK, il faut quand même que je vous révèle quelque chose sur le professeur Oblivion. Ce qui est très amusant dans cette scène-là, de Vidéodrome, c'est qu'il apparaît dans un talk show dans sa petite télévision, et donc, s'il vous plaît. Alors, il apparaît dans sa télévision... Et il réagit à ce qui se passe, il y a des champs contre champs, il y a des raccords sur le regard, hein. Il les regarde, bon, vous voyez, il regarde ici Max Rennes qui parle, il regarde à gauche, à droite, là il est en train de parler, enfin il regarde l'animatrice qui s'adresse à lui, mais en réalité le professeur Oblivion n'est pas en vie, hein. Le professeur Oblivion, là, le prophète des médias, hein, c'est ça ici, ok, c'est une vidéothèque, ok. La réalité du professeur Oblivion, c'est qu'il est mort depuis un certain temps, mais qu'il a une œuvre enregistrée, hein, qui, diffusée au bon moment, enfin, dans le secret, comme ça, fait en sorte qu'il a l'air de... Il a l'air d'être... Il a encore une espèce d'interactivité purement médiatique, quoi, une existence purement médiatique qui est là, et qui fait que, bon, je me demande finalement si... par exemple, peut-être que mon blog, peut-être qu'il y a d'autres blogs qui sont écrits plusieurs années d'avance, et puis nous, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui écrit, mais en fait, ils sont juste programmés, voilà, un billet par semaine pendant 5 ans, tu sais, pour vous donner l'impression comme ça, qui sait, hein, qui sait. Peut-être que maintenant, hein, la dématérialisation des œuvres, hein, après le truc, le problème de l'œuvre à l'ère de sa reproduction mécanisée qui était tellement Walter Benjamin à l'époque, mais maintenant, on est en train de vivre un deuxième choc comme ça qui fait en sorte que finalement, la reproduction virtuelle, la diffusion virtuelle des œuvres vont dématérialiser l'auteur complètement. Voilà, merci.